Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel. 106.3.
Bonsoir, vous êtes sur Zoom Écologie, à Fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous sommes jeudi soir, il est 20h30, et vous êtes avec les radioactifs et les radioactives. Ce soir, nous vous proposons un entretien avec Claude Magnier, qui est l'auteur d'un ouvrage sorti il y a peu aux éditions Libertaire, qui s'intitule « La révolte d'Albi ». Et son sous-titre « Réfugiés climatiques, un futur possible ». C'est un ouvrage d'anticipation qui part de la montée des eaux en Égypte. Enfin, pas exclusivement, mais c'est la toile de fond.
Entre, oui.
Et c'est un ouvrage que personnellement j'ai trouvé très intéressant parce qu'il tranche, je trouve, avec les projections qu'on fait souvent quand on pense aux conséquences du changement climatique, où on accorde une place très importante aux conséquences naturelles, aux catastrophes, et finalement beaucoup moins aux aspects politiques et sociaux. Alors que là, c'est vraiment toute la gestion de cette catastrophe par les pouvoirs en place, industriels, politiques et scientifiques. Donc on n'est pas du tout dans une vision naturalisante de ce qui nous arrive, de ce qui va nous arriver, mais au contraire, c'est très incarné dans notre futur, mais qui est quand même relativement proche de notre présent, et donc avec des conséquences assez catastrophiques malgré tout, d'un point de vue sécuritaire notamment, puisqu'on voit se déployer des réfugiés, des politiques sécuritaires, dans un aller-retour permanent entre la France et l'Égypte.
Absolument.
Voilà, on a aussi toute une dimension de lutte des différents acteurs de l'ouvrage, qui ne sont pas toujours victorieuses. Donc finalement, on est, je trouve, dans un récit plutôt réaliste. Et c'est d'ailleurs le sous-titre « Réfugiés climatiques, un futur possible ».
C'est un peu le but quand on écrit de l'anticipation, c'est de vraiment se dire maintenant, en ce moment, on est là, dans quelques années ou décennies, il va probablement se produire ça, et dans le cas d'espèces, les changements climatiques et la montée des eaux. Et donc, on se demande qu'est-ce que ça va signifier pour nous, et donc par extension pour les sociétés dans lesquelles on vit, évidemment.
Donc, est-ce que peut-être tu peux nous dire quel a été ton point de départ? Pourquoi tu t'as été amené à réfléchir à ça?
Alors, en fait, le roman, avant d'être un roman, a été une nouvelle que j'avais écrite. Ça commence à faire quelques années pour répondre à un appel de texte des éditions La Volte sur les dérives technologiques. Alors, donc, j'avais écrit cette nouvelle qui parlait d'une dérive technologique très précise qu'on retrouve dans le livre, mais qu'on ne peut pas trop évoquer, parce qu'en fait, ça arrive un petit peu par surprise à un moment. Mais donc, j'ai écrit cette nouvelle qui, en gros, contenait en germe le scénario du roman. Finalement, la nouvelle était censée être prise, et finalement, la pas été, il y a eu un petit peu un embrouillamini à ce moment-là. Et donc, la nouvelle n'ayant pas été prise est retournée dans mon tiroir. Et à un moment, je l'ai relue. Et ça a été la première fois de ma vie d'écrivain, alors que j'ai quand même publié une cinquantaine de nouvelles, que j'ai relu une nouvelle en me disant « mais il y a plus à dire ». Que ça, il y a même beaucoup plus à dire. Et c'est là que j'ai eu l'idée que ça pourrait, en développant tout ce que j'avais sous-entendu dans la nouvelle, écrire un roman. Alors, dans la nouvelle, ça ne se déroulait pas en Égypte au départ, ça se déroulait au Bangladesh, où il va y avoir une des conséquences les plus dramatiques et les plus sûres maintenant du réchauffement climatique en général et de la montée des eaux en particulier, c'est-à-dire l'engloutissement du delta du Gange et le fait de te voir déplacer à peu près 15 millions de personnes. Mais je me suis dit que pour le roman, comme j'ai cette habitude de ne pas à parler des endroits où je ne suis pas allé, je voulais aller à un endroit un petit peu plus près pour de simples raisons financières. Et du coup, j'ai commencé à faire quelques recherches et je me suis aperçu ce que j'ignorais au départ, qu'Alexandrie, donc en Égypte, était une ville extrêmement menacée par la montée des eaux pour la bonne et simple raison que la moitié de cette ville de 4 millions d'habitants était sous le niveau de la mer. Mmh. Et du coup, il m'est venu l'idée de faire vraiment dans le livre un parallèle entre deux villes, Alexandrie en Égypte et Albi en France, où j'habite depuis maintenant quelques années. Et donc, plutôt que d'étudier les effets de la montée des eaux sur une grosse zone, j'allais restreindre à une ville, ce qui me permettait, comme tu l'as dit au début, de faire un aller-retour permanent dans le livre entre deux endroits précis.
Alors, du coup, juste pour revenir un peu sur... Effectivement, il y a quand même ces technologies qui sont, et notamment les nanotechnologies, qui se sont déployées. Alors aujourd'hui, elles sont déjà largement déployées dans notre environnement, mais dont les utilisations, les conséquences sont assez présentes. On en retrouve dans les matériaux, dans les corps. Comment est-ce que tu as travaillé sur ces questions-là?
Il se trouve que c'était justement au moment où le gouvernement français organisait des consultations sur le sujet. Le genre de consultation qu'on ne médiatise pas trop pour espérer que ça va plutôt bien se passer entre l'anicroche et après on pourra dire qu'on a consulté la population et que tout va bien. Sauf que cette consultation qui s'est déroulée dans plusieurs endroits à travers la France a été plus repérée qu'il espérait. Militants qui se sont mis à y aller, à poser des questions qui dérangent, notamment un petit peu de précaution. Et du coup, ça commençait à faire un peu trop de vagues. Et la dernière vague de réunions et de consultations a été brutalement annulée. Évidemment, officiellement, à cause des militants agressifs qui venaient pour parler trivialement, mettre la merde. Et c'est quelque chose qui m'a quand même un petit peu frappé, parce qu'après, évidemment, ils ont quand même pondu un rapport, évidemment plutôt positif, et je me suis dit que ça faisait une raison de plus d'en parler. De toute façon, on arrive à un moment où tout se mélange. Il va y avoir les problèmes du changement climatique, il y a des progrès scientifiques absolument ahurissants qui vont enlever notre vie dans des circonstances dont on a dit qu'on a beaucoup de mal à appréhender, en bien, en mal, ou plutôt on peut le supposer, c'est ce que je suppose un peu dans le livre, les deux ensemble. Et donc, je crois qu'à leur de ce niveau, les écrits qui vont dans l'anticipation sont là pour réfléchir un petit peu et pour nous suggérer des hypothèses à partir desquelles on peut.
Quand on met en scène souvent le changement climatique, on a une approche qui part souvent des rapports du GIEC, qui s'ancre dans les projections scientifiques souvent en premier lieu. Est-ce que toi, de ce côté-là, ça a été aussi ta démarche ou pas du tout?
Comme je te l'ai dit, ma première idée, c'était déjà d'aller sur place et de voir un petit peu où on en était. J'ai contacté des scientifiques égyptiens qui ont accepté de me recevoir Voilà. J'ai obtenu une bourse du Centre national du livre sur le projet du roman, ce qui m'a donc permis d'y aller. Et les hasards du billet d'avion que j'ai pris fin 2010 et les hasards de l'histoire avec un grand H ont fait que je suis arrivé en Égypte presque en plein cœur du printemps arabe, puisque quand j'ai atterri au Caire, Moubarak était parti depuis 3 semaines.
C'est quelque chose qu'on retrouve très fortement dans l'ouvrage aussi.
Voilà, et c'était quand même bien le bordel. Enfin, tu vas me dire, t'allais encore, je suis d'accord, mais c'était un autre genre. Et du coup, j'ai quand même réussi à croiser les quelques scientifiques avec qui j'avais pris rendez-vous, même si ça a été un petit peu compliqué. Et entre autres, l'un d'eux a expliqué les problèmes, justement, de monter tes zones, à la ville en dessous de la mer, tes protections qui existaient déjà et qui étaient prêtes à céder, tes hypothèses, son hypothèse par exemple, le professeur Mohamed El Rey, qui avait cette idée de construire des îles artificielles en avant d'Alexandrie pour la protéger des tsunamis qui sont déclenchés par l'activité volcanique en Méditerranée. Et du coup, voilà, j'ai pris, comme souvent, j'ai pris la plupart de mes idées sur place auprès des gens qui sont mieux au courant que moi.
Mais la menace arrive là où on ne l'attendait pas aussi, dans
Oui,
le roman.
puisque j'ai quand même appris un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire que qu'au 19e siècle, un vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali Pacha, a fait construire une digue à Aboukir, une ville qu'on connaît plus pour les guerres napoléoniennes. Mais Aboukir, il faut se rendre compte que c'est une ville qui est en gros à 20 km à l'est d'Alexandrie. Et donc, cet homme, ce vice-roi, a fait construire une digue qui lui a permis de récupérer près de 700 km² sur la mer, qui maintenant sont des lieux habités, des champs, des industries. Et en ce moment, cette énorme digue qui tient depuis près de 2 siècles n'est plus qu'à en gros 1 mètre à 1,50 m selon les endroits au-dessus de l'eau. Et j'ai supposé que cette gigantesque digue cédait. Et ça revient tout simplement, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'à inonder la moitié d'Alexandrie et 2 millions de personnes. Je me suis effectivement amusé un petit peu parce que le professeur disait son projet de mettre des îles artificielles. Il essayait de convaincre le gouvernement de le faire, mais le gouvernement ne s'y intéressait pas. Il a essayé aussi de prévenir contre le risque de rupture de la digue, mais ça ne marchait pas non plus. Et j'ai supposé dans le livre qu'on réussissait finalement à faire ce rempart d'île devant Alexandrie, mais que c'était finalement l'autre menace qui a été concrétisée.
Et aujourd'hui, en Égypte, on imagine effectivement que ce n'est pas la première préoccupation, la montée des eaux.
Non, c'est. Non. En fait, non, toutes les questions environnementales sont assez de second plan, même si ça devient plus prégnant quand on s'intéresse un petit peu au Nil lui-même, qui est une question que j'ai abordée extrêmement rapidement dans le livre, comme ce n'était pas mon propos. Mais donc, plus la mer monte, plus l'eau salée remonte le Nil, et plus les terres fertiles se couvrent de sel et deviennent de plus en plus rapidement impropres à la culture. C'est sans doute là la question environnementale qui touche le plus
Les paysans.
l'Égypte en ce moment et les paysans. De toute façon, l'Égypte est un pays qui n'existe que par le Nil. Donc, tout ce qui touche au Nil devient immédiatement gros problème.
Et est-ce que c'est des questions qui sont envisagées ailleurs qu'en Égypte ou pas du tout?
Bah, la montée de Kézo, elle va être globale, la mer est partout. Maintenant, je ne prétends pas non plus être spécialiste mondial de la chose et de tous les endroits où ça va avoir des conséquences. Il y aura évidemment des endroits qui vont être beaucoup plus touchés que d'autres. Je vous explique au début du livre qu'il y a une petite chose qui là aussi est sûre de se produire. C'est un archipel polynésien qui s'appelle Tuvalu, qui est donc un petit pays indépendant de quelques milliers, dizaines de milliers de personnes, un chapelet d'îles paumées en plein milieu du Pacifique, qui possède la particularité que le point culminant de l'archipel est à 5 mètres de haut. Et donc, en ce moment, l'archipel est grignoté. Le gouvernement de Tuvalu est en train, en ce moment même, ça a commencé, hein, de négocier des accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour accueillir à terme l'ensemble de la population. Et on sait, c'est un fait assuré, avéré maintenant, que dans quelques dizaines d'années, 50, peut-être 100 ou plus, les Tuvalu vont être le premier État indépendant à être physiquement rayé de la carte.
Et donc va se poser certainement par là directement la question de ces réfugiés climatiques.
Voilà.
Et d'un éventuel statut, d'une éventuelle prise en charge par d'autres États.
La question commence à se poser un petit peu. Il existe des premiers rapports à l'ONU qui ne font que constater objectivement que ça va être une gigantesque merde, mais qui n'apporte pas vraiment de solution, enfin d'idée, parce que ça va effectivement être quelque chose d'extrêmement compliqué. En ce moment, tout le monde crie à l'invasion de nos chers petits pays à cause des quelques réfugiés politiques et économiques qu'on a à nos portes, mais là, ça va être des millions, littéralement des dizaines de millions de gens qui vont obligatoirement se déplacer, quoi. Parce que chez eux n'existera plus, c'est inondé comme une tête du ange, ou sera devenu si invivable que ça va être une question de vie ou de mort. Quoi.
Et avant de poursuivre cet entretien avec Claude Mamier autour de son livre La révolte d'Albi, Réfugiés climatiques, un scénario possible, paru donc aux éditions Libertaires en 2013, on vous propose une pause musicale avec une reprise de la chanson Beds Are Burning, tube international des années 1980 du groupe australien Midnight Oil, qui parlait des déplacements forcés de communautés autochtones et des dégâts environnementaux générés sur leurs terres ancestrales. Au-delà de l'évocation dans les paroles du climat suffocant à 45 degrés et du titre de l'album Diesel et poussière, qui nous rapproche un peu plus précisément de la question climatique, cette chanson a été reprise en vue de la conférence climatique de Copenhague en 2009, à la demande du secrétaire des Nations Unies par un ensemble de stars du show business, afin de promouvoir des résultats concrets lors des négociations à venir. Mais non seulement le sommet de Copenhague n'a rien produit à la hauteur des espoirs et des enjeux, mais 5 ans plus tard, les négociations climatiques s'enlisent toujours et encore. Et les modélisations catastrophistes semblent de plus en plus probables. Certains ingénieurs prométhéens veulent même nous rassurer en brandissant des solutions de géo-ingénierie à grande échelle, entre fertilisation massive des océans, projection de soufre dans l'atmosphère ou encore modification de l'axe terrestre. Pour cette chanson, on a donc choisi une version un peu moins édulcorée que celle de 2009, une reprise par le groupe de rock français Joyce. Comment pouvons-nous dormir alors que nos lits brûlent? Le temps est venu de dire « c'est notre tour de payer le loyer ».
Out where the river broke, the blood work and the desert oak, holding wrecks and boiling diesel, steaming 45 degrees. The time has come
pay the rent, to pay our share. The time has come, a back to back. It belongs to them. Let's give it.
Voilà, donc c'était Beds Are Burning. Et on poursuit tout de suite notre rencontre avec Claude Mamier autour de son ouvrage La révolte d'Albi, réfugié climatique, un scénario possible, un roman d'anticipation paru aux éditions Libertaire en 2013.
Moi je trouve que l'angle que tu as pris des réfugiés climatiques, il est assez explosif quand on regarde ce que toi tu anticipes. Comme montée du sécuritarisme et qu'on voit déjà, qui est déjà très violent. Donc on se demande qu'est-ce que ça va donner, effectivement, de ce côté-là.
Ce qui m'a intéressé aujourd'hui aussi dans la thématique des réfugiés climatiques, c'est que je suis aussi bénévole auprès de sans-papiers en ce moment, de réfugiés de Petchen, donc des réfugiés politiques qui ont de bonnes raisons de partir de chez eux, parce que sinon, ils vont rester aussi. Et c'est tellement compliqué, alors qu'ils ne sont quand même pas si nombreux que ça. C'est déjà tellement compliqué de faire admettre un pays riche comme la France qu'ils peuvent les accueillir, que Ce ne sont pas des envahisseurs que ce sont des gens qui ne demandent qu'à s'intégrer et à travailler et à vivre en paix ce qu'ils ne peuvent plus faire chez eux. Ils préféraient être chez eux, hein, mais ça n'est plus possible. Et quand on voit les réticences qu'un pays riche comme la France a à les accueillir, effectivement, on ose imaginer, enfin si, il faut l'imaginer, ce que ça va être quand ces gens vont être 10 fois, 100 fois plus nombreux.
Bah, surtout qu'il faut l'imaginer, parce que de ce que j'ai compris, s'il y a des gens qui prennent aussi au sérieux les questions climatiques et font des plans du futur... C'est aussi les militaires et ça va être aussi une extrême droite et des politiques sécuritaires qui, eux, vont se soucier de ces questions-là.
De toute façon, la réponse, entre guillemets, la réponse de l'extrême droite est toujours la plus simple. Hein, c'est on se referme et on fait comme si le monde extérieur n'existait pas, que ce soit au niveau d'une nation, d'une région, d'une simple... ville, ici à Albi, on a une liste FN au municipal qui sera sans doute au second tour. Et donc, on imagine à ces événements si la, entre guillemets, encore une fois, menace augmente, que la
forteresse va grandir.
On va mettre des murs, on va essayer de mettre des murs de plus en plus haut. Même si l'histoire, depuis des milliers d'années, montre que les murs ne servent à rien. Voilà, les murs ne font que reculer une échéance inéluctable à laquelle il faudrait mieux réfléchir avant. Mais c'est trop compliqué pour une large frange de nos élites et malheureusement aussi de tout le monde en général.
Dans ton livre, ce qui gêne la réflexion et la mobilisation aussi, c'est ce fameux revenu universel.
Oui, alors ça, c'est une question...
qui enquiste la société, quoi.
Voilà. Vraiment. Ben, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, dans tous les domaines, que ce soit environnemental, politique, scientifique, que ce qui fait que c'est si difficile, c'est que c'est rarement ou noir ou blanc. Même que les nanotechnologies peuvent à la fois servir à nous soigner et à nous fliquer. Le revenu universel, qui est une question politique et sociétale même qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est-à-dire la possibilité qu'une société, en règle générale, et donc sans doute en ce moment un État, offre à chacun de ses citoyens, sans contrepartie du simple fait qu'il existe un revenu minimal, qu'on appelle revenu minimal, revenu d'existence, revenu universel, il y a plusieurs appellations, mais un revenu inconditionnel qui permette de vivre dignement sans travailler, et on travaillera uniquement si on en a envie.
Là, on est en, il faut quand même le dire, on est en 2056. Et donc ce revenu universel, il a été octroyé suite à des émeutes.
Oui, j'ai supposé qu'en 2029, en France, la situation s'est été suffisamment dégradée pour que les gens aient faim. Mais vraiment faim, parce que c'est quand même souvent ce qui fait la différence entre un peuple qu'on contrôle encore et un peuple qui serait folle, c'est quand la mort est au bout. Je me suis inspiré justement des émeutes de la faim qu'il y a eu en 2008 au plus fort de la crise, dans un nombre de pays, et l'Égypte entre autres, quand les denrées de base alimentaire étaient devenues trop chères pour une fraction conséquente de la population. Et j'ai donc imaginé que ça arrivait en France et que le seul moyen de mettre fin à ces émeutes, c'était d'octroyer justement ce revenu universel qu'on étudie en ce moment. Hein. Ce serait tout à fait envisageable de le mettre en place en France du jour au lendemain presque. Il suffirait de faire aller le fric de pression plutôt qu'une autre. Le fric est là, on peut le faire. Et voilà, et donc après, une fois qu'on a imaginé que c'est en place, et qu'on commence à réfléchir à ce que ça sous-entend. Alors oui, certes, ça donne aux gens une liberté immense. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent littéralement. Mais du coup, cette liberté, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en profite bien ou mal? Et aussi, si tant est que, en dehors de ce revenu universel, le gouvernement en place fait des choses contre lesquelles on n'est pas d'accord, est-ce qu'on irait encore se révolter contre tout ce qui vous assure? Et je n'ai aucune réponse, je ne fais que poser les questions.
On a des personnages divers dans le livre où il y en a qui ne sont pas complètement rendus passifs par ça non plus.
Mais qui quand même profitent, en vivent.
Alors, et donc ça en France, mais en Égypte, on n'en est pas tout à fait au revenu universel. Non. On a énormément de morts suite donc à la montée des eaux. Et on a surgi notamment une commune anarchiste dans les immeubles envahis par la mer, mais qui se réorganise malgré tout. Donc on a une situation qui produit des formes politiques intéressantes et qui vont puiser aux traditions anarchistes, qui restent très éphémères malgré tout. Mais il y a toute une question aussi de qu'est-ce que seront les mouvements libertaires dans 50 ans et transformés par la situation naturelle et politique.
Oui, alors pour ce qui est de l'anarchisme dont on va dire, pour résumer, que je suis un sympathisant pessimiste.
On le sent.
Voilà. J'ai tendance à croire... Au vu des différents épisodes, des histoires, des mouvements anarchistes qui ont pu se développer dans le monde à droite et à gauche, j'ai tendance à croire que ce genre de mouvement ne se met en place que dans les circonstances assez rudes, justement. Comme tu l'as dit, j'imagine, dans une zone inondée, mais où les immeubles les plus hauts émergent encore, il y a des gens qui vont rester là, et se mettre à collaborer entre immeubles en allant en bateau d'un à l'autre, suggère évidemment une mise en commun des ressources, etc., etc. Mais voilà, pour aller à un plus petit exemple que je cite aussi dans le livre, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu à Alexandrie, au moment du printemps arabe en Égypte, comme les flics étaient vraiment très proches du pouvoir et très assimilés à Moubarak, quand Moubarak est tombé, les flics ont disparu. Ils se sont planqués dans une caserne et on ne les voyait plus. Ce qui a posé entre autres un tout petit problème dans les grandes villes en Égypte et Alexandrie entre autres, c'est la circulation. Et du coup, il y a des simples citoyens, monsieur et madame, tout le monde. Bon, d'accord, on est ça a plutôt tendance à être monsieur que madame, on est d'accord. Mais qui se sont mis au carrefour et se sont mis à faire la circulation à la place des flics qui n'étaient plus là. Et comme il fallait quand même que ça roule, au propre comme au furet, eh ben, les gens leur obéissaient. Et j'ai rencontré plusieurs personnes en Égypte qui se sont dit « Mais ça, c'est un super exemple, les flics ont disparu, le gouvernement est tombé et spontanément, le peuple s'organise. » Et pendant que j'étais là-bas, puisque j'y ai passé 3 semaines et demie, petit à petit, les flics ont commencé à ressortir discrètement des casernes et dans le cas précis des carrefours, ils ont commencé à revenir au carrefour, d'abord à se mettre à côté des civils qui continuaient à faire leur travail. Et puis, ben, petit à petit, les civils en question, quand ils ont vu que les flics étaient là, et ben, ils sont tournés à leurs propres affaires parce qu'ils avaient autre chose à faire que la circulation. Du coup, ben, tout est rentré dans l'ordre, s'il faut m'exprimer ainsi. Et je crains que... petit exemple soit aussi valable à plus grande échelle dans les communes. C'est-à-dire que souvent déjà les communes se créent dans des circonstances assez extrêmes. On imagine évidemment la commune de Paris au moment de la guerre avec la Prusse. Et après, déjà, en général, les communes, les autres formes de pouvoir n'aiment pas trop ça. Donc en général, ils se font vite taper dessus. Mais je me dis que même s'ils se faisaient pas taper dessus, après être né, s'être créé dans des circonstances exceptionnelles, quand une solidarité s'est créée en résistance à une situation exceptionnelle, si cette situation disparaît, est-ce que la solidarité reste ?
Mais ce qui reste, et aussi dans ton livre, c'est quand même un apprentissage pour des individus et une certaine mémoire aussi quand même qui se transmet. Enfin, notamment la figure d'un jeune Sioui, ça se prononce comme
voilà,
ça
ouais. Oui, voilà.
Et qui va rapporter ça ailleurs, quoi.
Oui, parce que j'ai donc imaginé, alors l'Oasis de Siwa est un endroit assez amusant en Égypte. C'est une oasis très isolée qui est dans le désert libyen, donc très près de l'Afrique libyenne. C'est une oasis qui est peuplée de berbères. C'est l'endroit le plus à l'est où les berbères sont allés en Afrique du Nord. Et ce qui m'a amusé, c'est que c'est aussi l'endroit le plus à l'ouest où Alexandre le Grand est allé.
Et on a ce jeune qui est marqué effectivement par les fondateurs.
Il y a ce jeune qui, comme tout jeune, on va dire, vivant dans un endroit un petit peu isolé, a envie d'aller voir la grande ville ce qui se passe, même si, évidemment, à la grande ville, il y a eu quelques problèmes. Mais donc, il va y aller. Au fur et à mesure de ses pérégrinations, il va se retrouver accueilli dans cette fameuse commune. Il va essayer de comprendre ce qui peut à l'anarchie, jusqu'au moment où la commune va être écrasée donc, par l'armée égyptienne. Et notre jeune homme va rentrer dans son oasis et essayer de mettre en pratique des théories qu'en fait il n'a pas forcément bien comprises. Et je me dis que c'est là aussi un gros problème pour les théories anarchistes. Un gros frein, c'est que ça demande aux gens de réfléchir beaucoup. Et comme réfléchir prend du temps, ça peut prendre des générations. Hein. Et le problème, c'est que quand on prend le temps pour réfléchir, et ben, au même moment, il y a l'armée qui arrive, l'extrême droite qui arrive, le fascisme qui arrive, avec des solutions beaucoup plus simples et des armes. Et du coup, ce qui me rend en fait le plus pessimiste dans l'anarchisme, c'est que ça demande une éducation très longue qui peut littéralement prendre des générations. Et face à la violence du système et à des solutions plus simplistes que ça, ben ça va trop lentement.
Oui, après il y a des moments et des moments, des mouvements sociaux où on apprend sur le tas aussi et où c'est là que se font les choses peut-être plus efficacement que dans les livres, mais bon.
C'est une autre question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais c'est vrai que comme j'ai un naturel assez pessimiste.
Non, mais c'est l'intérêt du livre. Je trouve aussi qu'on est face à des questions qui restent grandes ouvertes. Et tout n'est pas pessimiste non plus, parce qu'on voit des gens qui luttent, des gens qui essayent de faire des choses. De ne pas s'en sortir trop facilement, c'est aussi important et intéressant.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, avec Zoom Écologie et son équipe du premier jeudi, les radioactifs et les radioactives. Tout de suite, avant de poursuivre notre entretien avec Claude Mamier autour de son ouvrage « La révolte d'Albi, réfugié climatique, un scénario possible », un roman d'anticipation politique et sociale, paru en 2013 aux éditions Libertaire, on vous propose une pause musicale avec Oum Kaltoum et son album « Al-Altan, les ruines » en égyptien, qui fait partie de l'imaginaire direct de la révolte d'Albi.
Thank you. يا فؤادي لا تسأل أين الغوى يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروع عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلاله واروع
Voilà, c'était la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum avec son album Al-Altan, Les Ruines. Et on poursuit tout de suite, et même on termine, notre rencontre avec Claude Mamier autour de son roman La Révolte d'Albi, réfugié climatique, un scénario possible. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Zoom Écologie avec son équipe des radioactifs et des radioactives.
Ce que je voulais te demander aussi comme petite question, c'est sur les acteurs, parce qu'on suit beaucoup, donc 4 personnes. Alors, les femmes ne sont pas complètement absentes, mais elles restent quand même elles ont un rôle important, mais elles restent en toile de fond, quoi. C'est pourquoi 4 hommes, en fait ?
Là, Hanir, quand j'ai construit mon scénario de départ, je voulais, pour montrer la multiplicité des situations, des réactions aux situations, des chocs de culture, qui est un personnage égyptien en France, un personnage égyptien en Égypte, un personnage français en France et un personnage français en Égypte. Ce qui tente de déterminer 4 personnages principaux. J'ai commencé à les imaginer, à leur donner une certaine profondeur, on va dire, un passé. Et tout d'un coup, un jour, je me suis rendu compte au fil de réflexion, oui, mais c'est 4 hommes. Et je me suis dit, ah oui, c'est 4 hommes, oui, alors ah bon, oui, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... Ça m'a gêné aussi. Après, je me suis rendu compte que ces 4 personnages-là, j'en étais arrivé à un moment où je les avais quand même bien construits, bien intégrés, et je ne me voyais pas faire exprès de sur l'un ou deux d'entre eux faire une modification aussi extrême qu'un changement de sexe, ce qui sous-entendait évidemment plein de choses. Et c'est là qu'est apparu ce que je considère comme le 5e personnage principal du livre, c'est Fayrouz, la vieille anarchiste égyptienne, qui...
Tient pas les ficelles, mais presque.
Voilà, j'ai l'impression d'avoir réussi ça, est très peu physiquement présente dans le livre. Elle doit être présente dans 4-5 chapitres sur 39, mais je crois que sa présence plane au-dessus de tout. En tout cas au-dessus des deux personnages égyptiens qu'ils ont rencontrés. Tu me poses là une question que d'autres intervieweuses m'ont déjà posée.
Et peut-être une dernière question, plus sur la place du conte dans l'ouvrage, parce que par ailleurs tu es aussi conteur.
Oui.
Bah, dans un roman d'anticipation, on ne s'attend pas à une telle place du conte, et qui est beaucoup plus qu'on attendrait de l'ordre d'une transmission, d'un rapport au passé, à une certaine sagesse populaire. Comment est-ce que pour toi ça s'est articulé de passer d'un travail de conteur à un roman d'anticipation ?
Ben déjà, ce sont deux disciplines que je pratique en parallèle depuis une dizaine d'années, en sachant que les lignes droites de temps en temps viennent se frôler l'une l'autre. Entre autres, je trouve que quand on est dans l'anticipation, on réfléchit au futur, donc on réfléchit au présent, et le présent découle du passé, et on ne peut pas écrire un roman d'anticipation sans s'intéresser un minimum à l'histoire et à l'histoire lointaine. Et l'histoire se transmet, les sociétés se transmettent, et les contes se transmettent aussi. Ça n'est pas loin de là un truc en dehors des sociétés, au contraire. Et entre autres, il y a un conte traditionnel du Moyen-Orient qui s'appelle le Massaoud le cordonnier au pays à la Tazène, qui est un conte traditionnel et qui a une portée politique très proche d'une théorie libertaire. On a l'impression, ou on veut nous donner l'impression, ou on croit que toutes ces réflexions, les grandes théories politiques sont apparues au 18e, 9e, mais peut-être leur mise en livre, oui, leur théorisation presque scientifique, oui, est en germe dans l'évolution des sociétés depuis très longtemps, et les contes sont un excellent reflet de cette progression, car le conte, ça n'était pas pour les enfants. On essaie en faire un truc inoffensif qu'on raconte aux enfants pour les endormir. Mais le conte traditionnel est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement dur. Maintenant, on a des versions des contes qui sont édulcorées d'une manière impressionnante. Prenons un exemple. Le conte, le petit chaperon rouge. La première version qu'on ait du petit chaperon rouge monte à plusieurs siècles. Le loup tuait la grand-mère, il ne la mangeait pas, il la cuisinait dans la cheminée. Et quand le petit chaperon rouge arrivait, il lui donnait à manger sa propre grand-mère. Alors après, c'est un conte aussi qu'on pourrait causer pendant des heures, parce que cet engloutissement de la grand-mère, de la petite, symbolise le passage entre générations. Le conte est plein, la version originelle est plein de petits symboles. Dans le, entre guillemets, vrai conte, le petit chaperon rouge est une pré-ado, c'est pas une enfant. Et il y a plein de symboles sur l'arrivée à l'adolescence, le sang menstruel, etc. Et c'est des côtés qui ont été masqués, édulcorés pour en faire des petits trucs gentils.
Mais là, dans le roman, ça contribue aussi à nous acclimater avec ce futur, quoi, finalement. Parce qu'il y a une dimension importante de la tradition et de l'histoire de l'Égypte qui est présente aussi. Bon, d'Albi, on n'en parle pas, mais aussi. Oui, ça contribue à rendre le futur, je trouve, beaucoup plus pensable et beaucoup plus présent, quoi.
Ah, c'est comme je disais, le futur vient du présent, dans le présent vient du passé. C'est une ligne avec plein d'anicroches, mais c'est une ligne droite qui remonte très loin. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à oublier.
Et ce n'est pas tout dévoilé que de dire que le roman se termine par un conte où le conteur ne compte pas, mais renvoie la population à elle-même. Est-ce que c'était une métaphore un peu de comment tu conçois ton rôle de romancier, ou est-ce que tu peux expliquer un peu cette fin ?
De toute façon, celui qui raconte une histoire, parce que c'est un petit peu comme ça que je me définis, ni comme un écrivain, ni comme un conteur, mais comme un raconteur d'histoire. Le fait de raconter une histoire peut en prendre plein de formes, écrites, orales, dessinées, même si je suis nul en dessin, c'est une autre méthode encore. Oui, après, on raconte une histoire, on l'offre à des gens. Alors évidemment, comme on n'est jamais complètement objectif, on a toujours tendance à raconter une histoire sous un certain angle. On a peut-être envie d'amener les gens d'un certain côté plutôt que d'un autre. C'est humain. Mais Je considère que dans les deux cas, que ce soit le conte ou l'écriture, j'essaie de que les gens repartent déjà en ayant une bonne histoire. Et après, si possible, une histoire qu'ils ne vont pas oublier du jour au lendemain, parce qu'il y aura certaines questions, ça les aura peut-être amenés à se poser. Des questions, comme je le disais tout à l'heure, auxquelles je n'ai aucune réponse, puisque souvent je ne fais qu'exposer mes questions au grand public, peut-être en espérant qu'il pourra lui-même apporter des idées, des réponses qui ne me sont pas venues à l'esprit. Voilà, je crois que je inscris mon travail plus simplement dans cette transmission du passé, en oubliant surtout
pas le présent.
Le présent et qu'il y a un futur après auquel il vaudrait mieux se mettre à réfléchir assez vite.
À penser, bah c'est une belle invitation. Donc je rappelle juste l'ouvrage, ça s'appelle donc La révolte d'Albi, réfugiés climatiques, un futur possible, donc de Claude Mamier, et c'est paru aux éditions Libertaires en 2013.
Tout à fait.
Voilà, voilà, donc vous le trouverez dans les bonnes librairies. Ben, merci beaucoup.
Et merci de m'avoir accueilli.
Et puis, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet zoomecologie.net. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir.
Merci, au revoir.